Bonjour Milana.
Bonjour David.
Milana Volonchenko, je vous connais bien, je vais le dire tout de suite sur CFM, puisque vous animez une émission qui s'appelle La coiffeuse aux accents depuis un an maintenant. Milana, vous êtes ukrainienne.
D'origine, tout à fait.
Voilà, ça fait pas mal d'années que vous êtes installée en France, mais vous êtes ukrainienne. Et née à Kharkiv. Alors Kharkiv, il y a quelques semaines de ça, personne ne connaissait. Maintenant, tout le monde connaît malheureusement le nom de cette ville.
Absolument, et en sachant que initialement ça se prononçait Kharkov,
ouais,
à la russe, et puis depuis l'indépendance d'Ukraine qui a eu lieu, je vous le rappelle, en 1991, et on a imposé rendre les noms des villes avec une prononciation ukrainienne. Et donc, et c'est comme ça que Kharkov, qui est à l'origine une ville très pro-russe, est devenu Kharkiv.
Très bien, merci pour ce point. Milana Volochenko, vous êtes l'une des créatrices du collectif Solidarité Ukraine Aveyron, qui s'occupe des Ukrainiens réfugiés sur le département depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, c'est le cas d'un certain
nombre.
Ouais. C'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre de personnes de votre famille perso.
Absolument, donc je suis directement concernée par ce qui se passe. Évidemment, j'ai toujours ma famille qui est en Ukraine. Donc tout le monde n'a pas pu échapper à la guerre, j'ai des nouvelles au quotidien. Et en revanche, donc j'ai eu cette chance de faire venir mon frère. Et puis 6 personnes de la famille plutôt lointaine. Donc, et mon papa qui vit déjà en France. Mais la situation est très complexe et je vous avoue, c'est pas toujours facile d'en parler sans émotion.
Mais je comprends bien, évidemment, Milana. Du coup, puisque vous avez encore de la famille sur place et puis des relations forcément, c'est quoi pour vous les toutes dernières infos, soit autour de Kharkiv ou en Ukraine de façon plus générale?
Kharkiv, à la base, c'est, je pense, c'est important de notifier. Initialement, c'était la capitale d'Ukraine.
Oui.
Avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est une ville de 1 500 000 habitants. Et avec la région autour, on est à 2 500 000. Et puis, il y a à peu près 70% de la population qui est partie, essentiellement les femmes et les enfants, parce qu'on ne laisse pas sortir des hommes. Tranche d'âge entre 18 et 60 ans, ça c'est la tranche d'âge qui ne permet pas de quitter le pays. Et en fait, en termes de destruction, il y a des statistiques assez précises. Et en fait, elles sont précises parce que je suis en contact direct avec le cabinet du maire de la ville. Le bras droit du maire de Kharkiv, c'est un ami et mon condisciple de fac. Ah. Donc, j'ai vraiment des infos très exactes. Et donc, aujourd'hui, il y a 1400 immeubles qui sont démolis, en fait, et l'esthétique de la ville, elle est extrêmement abîmée. Heureusement, ils n'ont pas quand même touché aux églises, tout ce qui est les magnifiques cathédrales, parce qu'il y a un patrimoine religieux assez phénoménal à Kharkiv. Et c'est une ville qui a une esthétique très très belle en fait, mais c'est plus le cas, bien évidemment.
Alors oui, c'est vrai, parce que quand on voit les images de l'Ukraine en ce moment de la guerre, ça se passe dans l'est du pays. L'est de l'Ukraine, c'est une zone très industrielle, on voit des usines, des grandes villes, des ports, voilà la technique. Ouais, Kharkiv, on est, il y a de ça aussi, hein. Mais Kharkiv, c'est une ville aussi de d'église, d'accord, mais de haute culture.
De haute culture, tout à fait, parce que si on pouvait faire un comparatif avec des villes qu'on connaît bien, comme Moscou et Saint-Pétersbourg, par exemple, Kharkiv, ce serait la réplique de Saint-Pétersbourg, en quelque sorte, et la même forme de concurrence avec la capitale. Donc c'est aussi la capitale industrielle, mais aussi la capitale culturelle. Et il y a une faculté, l'université de Kharkiv, c'était à l'époque l'université la plus réputée de l'Union soviétique.
Kharkiv, on précise pour la géographie, on est dans le nord-est du pays et tout près vraiment
tout
de la
près
frontière russe.
Exactement, il y a 22 kilomètres très exactement.
Voilà, donc c'est vraiment la porte à côté, comme si là on allait, je sais pas, 22 kilomètres. Espalion, c'est plus loin quoi. Par
ce qui explique aussi la volonté de s'y approprier. Parce que bah, c'est ce qui se passe en toute objectivité. À chaque fois, quand on me pose cette question, la réponse est simple. Franchement, elle est simple. Il s'agit de règlement des comptes historiques, en fait. Parce que si on creusait dans l'histoire, effectivement, toute cette partie qui est attaquée par la Russie, c'est la partie pro-russe qui a des racines russes omniprésentes. C'est pour ça que l'Ukraine de l'Ouest, tout ce qui est Lviv, parce que c'est la référence de l'Ukraine de l'Ouest, qui a toujours été partie extrêmement ukrainisée et historiquement, les Ukrainiens de l'Ouest, c'est ces Ukrainiens qui maîtrisaient parfaitement la langue ukrainienne. C'était en fait leur langue de quotidien, contrairement aux Ukrainiens de l'Est qui... Depuis toujours, ils étaient des russophones en fait. Et la langue ukrainienne, c'était une langue officielle, mais facultative, même dans l'enseignement.
Par exemple, vous de Kharkiv, Milana, quand vous parlez avec vos parents, votre frère, vous parlez en russe, c'est votre langue.
Exactement, c'est ma langue maternelle. Donc d'autant plus, c'est absolument pas évident à vivre parce que on a l'impression que c'est une autodestruction, en quelque sorte.
Ouais. Alors, vous avez dit pro-russe tout à l'heure en passant, en parlant de Kharkiv et sa région. Alors, pro-russe, c'était peut-être l'espoir des Russes, à proprement parler, mais ce qu'on constate depuis presque bientôt 2 mois de guerre, là, hein, c'est que Kharkiv n'a pas décidé de se livrer et de laisser rentrer l'armée russe. Donc, c'est pas
tout à fait
la russophone, mais pas pro-russe.
Cette conscience et naissance du patriotisme se propageait petit à petit. Parce que c'est vrai que pour moi, parfois, même c'est pas évident de porter le témoignage sur l'évolution de l'Ukraine, car je quitte ce pays en 1995, je connais ce pays qui était plus un pays soviétique, donc sous direction de Moscou. Et puis, les 4 petites années d'indépendance, ils n'ont pas véritablement impacté l'esprit de ma génération, encore moins l'esprit de génération de mes parents. Et on va dire que cette prise de conscience, une forme de nationalisme qui est née en Ukraine, ça concerne plus la génération de milieu des années 80, en fait.
D'accord.
Et en fait, c'est cette masse de population qui, par la suite, influençait aussi tout le monde évoluait par la suite dans cette ambiance. Et donc, évidemment, petit à petit, tout le monde est aujourd'hui solidaire sur le plan de l'importance d'avoir une langue unique. Et puis, mais il n'y avait pas l'origine culturelle du russe. Parce que c'est quand même, on ne peut pas enlever de l'impact culturel énorme sur le développement des individus de toute l'Union soviétique. Donc la Russie, ça a toujours été la référence culturelle pour toutes les républiques soviétiques. Et en fait, même ça, c'est ce qui restait le plus précieux, est extrêmement abîmé aujourd'hui. Donc, il reste plus rien à part l'amertume, les larmes, la haine et l'abîme énorme. C'est bien dommage.
Eh oui. Milana, on va parler bien sûr de ce que vous faites, vous et tous les membres du collectif Solidarité Ukraine en Aveyron, ici sur le département. Mais juste encore un mot là sur la situation en Ukraine, puisque vous avez des contacts nombreux et réguliers. Là, l'état d'esprit sur place, c'est quoi? Parce que je disais, elle a presque 2 mois de guerre, donc on pourrait être découragé. On pourrait aussi...
L'état d'esprit sur place, vous dites l'état d'esprit de la population.
Ouais.
Disons, vous savez, ce qui est assez phénoménal. phénoménal. Dans tous les cas, je témoigne à travers les personnes que je connais. Donc, ma source d'information, c'est pas la source d'information médiatique, c'est la source des personnes qui le vivent au quotidien et qui se mobilisent pour mener des actions de volontariat. Par exemple, il y a beaucoup qui se mettent à évacuer les gens. Et en fait, il y a une grosse partie qui est concentrée dans des différentes villes comme Khmelnytsky et Lviv. Ça, c'est les bases les plus importantes où il y a, avant Pologne, l'accueil des Ukrainiens où, à partir ces deux points stratégiques, il y a une forme de sécurité où on offre l'accueil, on offre les solutions d'hébergement et ainsi de suite, l'aide médicale si c'est nécessaire. Et c'est par la suite l'état prochain, ceux qui souhaitent quitter le territoire, on apporte des solutions à partir de ces deux bases essentielles, Lviv, Khmelnytsky, je le répète, pour ensuite soit aller en Pologne, soit aller en Roumanie, traversant le Moldavie. Et en fait, ceux qui, au départ, espéraient, quand on parle avec les Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine, ils pensaient que c'était question de 2-3 jours. Personne ne pouvait imaginer qu'ils vont être obligés et forcés de quitter leur pays. Et puis, mais il y a beaucoup encore qui continuent à vivre dans cette même espoir. Donc, c'est partagé. J'ai par exemple pas mal d'amis de fac qui résistent encore, qui sont à Kharkiv. La philharmonie de Kharkiv, avec qui j'ai énormément travaillé ces dernières années, le directeur et le chef d'orchestre de la philharmonie, il va pas du tout quitter ses fonctions. Il se rend à la philharmonie tous les jours. Et pareil pour les hommes d'État. Donc, en fait, la manière comment elle s'organise, il crée les bureaux nomades, en fait, souvent dans le souterrain, pour ne pas être repéré. Et puis, ils reçoivent aussi, il y a une forte mobilisation pour recevoir les aides humanitaires, pour les dispatcher. En fait, dans les villes, il y a des points officiels qui annoncent où on peut venir chercher l'aide humanitaire. Et ce qui est aussi fantastique, on ne croirait pas qu'il y a autant de juifs en Ukraine, mais vous avez une mobilisation au sein des synagogues, et à Kharkiv, il y a énorme synagogue qui propose des solutions assez incroyables. Donc voilà.
Alors l'Ukraine, grosso modo, si vous me corrigez si je dis une bêtise, hein, c'est environ 40 millions d'habitants.
En fait, il est très similaire à la France. Il me semble qu'il y a un peu plus. Ouais. En fait, ça va jusqu'aux 60 000, il me semble.
Ouais, d'accord. La taille du pays, oui, c'est même un petit peu plus grand que la France.
Mais sauf effectivement, vu que Crimée a été amputée.
Ah oui, ça remonte à 2014.
Maintenant, on est
un peu moins.
On est diminué dans son envergure. Mais c'est vrai que ça ressemble. Et c'est ce qui m'a frappé aussi personnellement. Il y a une telle similitude avec l'esthétique française en Ukraine. Vous avez aussi la montagne. La montagne ukrainienne, c'est les Carpates qu'on peut assimiler un peu aux Alpes du Sud, en fait. Ouais. Et puis, il y a la mer, on avait la mer Noire, on l'a toujours pour l'instant.
Toujours, oui, à Odessa.
Et via Odessa et Mariupol, mais... On sait pas, personne ne sait de toute façon comment ça va se terminer. On peut faire tous les pronostics qu'on puisse, mais personne ne le sait. Ça, ce n'est pas seulement mon opinion personnelle, c'est l'opinion de beaucoup de gens. Donc il y a un grand espoir de victoire, bien évidemment, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais si on y réfléchit, plus sérieusement, on a pour un petit moment, et comment ça va se terminer, on ne sait pas.
Il y a, d'après les derniers chiffres d'institutions internationales, j'ai vu un peu plus de 5 millions d'Ukrainiens qui ont fui le pays, qui sont pour beaucoup, la moitié, d'ailleurs plus de la moitié en Pologne, et puis d'autres qui sont venus dans d'autres pays d'Europe via des contacts.
Tout à fait. Donc, Pologne a accueilli énormément de monde. C'est le pays, même sur le plan culturel et même linguistique, qui est très proche de l'Ukraine. C'est lui qui maîtrise l'ukrainien. et comprend très très bien le polonais, mais en fait ça va vite au niveau d'apprentissage de la langue aussi. Et donc, et pour le reste, évidemment, l'Allemagne, ce serait le deuxième pays. Et puis, la France accueille. J'ai lu l'article il y a quelques jours. Je crois que c'est. On est à 40 000 à peu près maintenant.
Et puis, sans doute plus, hein, d'après le gouvernement français qui s'attend encore à des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui viennent se réfugier.
Et puis, bon, j'ai parmi mes connaissances des personnes qui sont en Norvège, ouais. Même en Norvège, en Israël aussi. Ouais. Donc, c'est. Chaque personne trouve sa propre solution, mais c'est vrai. C'est beaucoup plus facile d'aller là où on connaît déjà quelqu'un potentiellement.
Eh oui, bien sûr.
Parce que pour organiser l'accueil de la personne qu'on peut parrainer, il est beaucoup plus rassurant et il apporte aussi plus vite des solutions.
Et alors justement pour accueillir ces réfugiés ukrainiens et notamment en Aveyron, vous avez créé, pas toute seule, avec des associations et d'autres personnes autour de vous, le collectif Solidarité Ukraine Aveyron. Vous avez une idée du nombre d'Ukrainiens en ce moment là sur le département à peu près?
Les derniers chiffres, on disait qu'il y a eu 300 d'une manière chiffrée, c'est-à-dire la statistique a été réalisée et qu'on attendait à peu près 2000 encore.
D'accord. Donc ces personnes, une fois arrivées en France, même si l'État permet certaines facilités, les mairies aussi aident autant qu'elles peuvent, enfin suivant leurs possibilités, ça suffit pas. C'est pour ça que vous avez créé ce collectif. Qu'est-ce qui fait exactement, c'est quoi le travail et ce sur quoi vous travaillez auprès de ces réfugiés?
En fait, l'initiative de création de ce collectif est survenue comme une évidence. Parce que tout le monde a remarqué une mobilisation assez incroyable du monde associatif sur le territoire de l'Aveyron et même partout en France. En fait, c'est vraiment un phénomène national. Mais revenant à notre réalité aveyronnaise, effectivement, beaucoup d'associations ont voulu contribuer et même des personnes à titre privé pour apporter une aide soit sur le plan alimentaire. Au niveau des médicaments, il y a eu énormément des pharmacies qui se sont mobilisées aussi. Moi-même, j'étais contactée par la pharmacie de Saint-Comdolt pour savoir où est-ce qu'on peut amener des médicaments et puis des trousses d'urgence. Ensuite, la nécessité de proposer des solutions d'insertion linguistique et puis et par la suite proposer l'accompagnement d'insertion professionnelle. Donc il y a en fait toutes les facettes du coup qui ont donné nécessité d'associer tout ce tissu associatif. Donc c'est en quelque sorte la matérialisation d'une structure qui regroupe toutes les forces locales.
Qui coordonne.
Coordonne, voilà. Donc il fallait la nommer. et donc c'est comme ça qu'on l'a nommé à collectif Ukraine Solidarité Aveyron. Et pour vous donner l'idée qui a motorisé sa naissance, avant tout c'était FACE Aveyron-Tarn et FACE Occitanie, présidée par Alain Picasso. Et puis, donc, elle est très très bien entourée, notamment par Michel Alibert, par Jean-Marc Lacombe, c'est les noms qui parlent aux Aveyronnais, Pierre Smirnov également. Et ces personnes, elles étaient vraiment très sensible à apporter des solutions et en fait se sentir utile face à ce problème. Et puis, il m'informe sur une quantité d'actions qui sont proposées. Chacun en fait quelque chose de son côté. Donc, il veut donner un petit cours de français. Il y a par exemple les Restos de Cœur qui souhaitent qu'on vient se servir de produits. Et ils ont d'ailleurs notifié qu'ils étaient même inondés, plus que d'habitude, parce que leur appréhension, c'était qu'il n'y aura pas assez pour ceux qui sont destinataires principaux de la nourriture proposée par les restaurants du cœur. Et là, le fait qu'il y a eu cette crise ukrainienne, ils étaient absolument éblouis par la quantité de produits qu'ils réceptionnaient. Donc, c'était pas du tout au détriment des autres. Mmh. Et cette solidarité, il est à chaque fois remis sur le plateau parce que tout le monde la trouve assez phénoménale et de jamais vue dans l'histoire des guerres même. Ça va loin. Et puis vous avez aussi la banque alimentaire, puis qui est très active, très impliquée aussi dans
De très nombreux acteurs de l'Aveyron, à personnel, des particuliers, des entreprises, des associations que vous avez citées, une grosse mobilisation en France et sur le département de l'Aveyron notamment. Il y a aussi des actions que vous montez de vous-même pour recueillir des fonds en plus, hein.
À travers des événements, parce que ça c'est aussi un moyen assez fiable et assez efficace. En fait, on a démarré notre première action a eu lieu en dehors de département. C'était à Sète, c'est la ville de Sète qui nous a sollicité de. Et là, c'était aussi assez incroyable de voir à Sète même des maisons illuminées en drapeau ukrainien.
Ouais, en jaune et bleu.
Jaune et bleu. Donc voilà, donc ça démarrait en mars. Et en fait, et c'est fou de voir comment c'est possible de monter ce genre de projet en très peu de temps et avoir des résultats pareils. Et ça démontre en fait que tout est possible. Et donc je vous ai parlé de premier concert de solidarité à 7. Ensuite, c'était avec FAS à Aveyron-Tarn et puis la communauté d'agglomération de Rodez, de Onet-le-Château, la ville de Monastère. Donc on a sollicité la Baleine.
Ouais, un concert à la Baleine il y a quelques semaines.
Et donc on a eu un très bel événement à la Baleine qui a permis justement de concrétiser en fait la légitimité de ce fameux collectif et d'avoir des fonds qu'on pensait initialement utiliser pour aller chercher les gens à la frontière, donc affréter un bus qui pourra les rapatrier. Mais la préfecture a démontré les vrais besoins de trouver des solutions pour les Ukrainiens qui arrivent, parce que il faut préciser que du moment qu'un Ukrainien aujourd'hui met son pied sur le sol français, avant qu'il soit légalisé auprès de la préfecture, il faut à peu près aujourd'hui attendre 2 semaines. Ce fameux rendez-vous qui lui délivre son papier, qui s'appelle APS, c'est en fait de titre de séjour temporaire. Et ensuite, à partir du moment qu'il a ce fameux papier, ce titre, et il faut attendre entre 30 et 45 jours jusqu'à ce qu'il a les premières aides d'État. Donc ça veut dire que à peu près pendant 2 mois, il n'a pas véritablement la couverture sociale, à part la solution d'être logé par les mairies, par les centres d'accueil, par les particuliers, et ainsi de suite, qui les prennent en charge, qui leur donnent la nourriture gratuite. Mais pour certains, ils n'ont même pas de quoi se payer à manger.
Et donc vos actions, c'est pour combler
cette fameuse période qui est extrêmement difficile, qui nécessite aussi les accompagnements psychologiques. Certains peuvent avoir aussi des maladies chroniques et il faut qu'ils retrouvent les équivalents dans les soins. Et donc, il y a une unité à l'hôpital de Rodez qui s'appelle PASS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à découvrir. Il n'est pas du tout créé que pour les Ukrainiens, mais c'est une unité qui propose des solutions, des soins pour tous ceux qui ont les problèmes d'être sur les territoires d'une manière légale, mmh. en attendant des solutions définitives, en fait.
Milana, dans ce cadre-là, vous organisez ces prochains jours de rendez-vous, des rendez-vous musicaux, et on comprend, puisque vous avez évoqué la musique, c'est votre vie depuis quasiment toujours, donc vous organisez des concerts sur le département de l'Aveyron. Le premier, c'est demain soir, c'est ça ?
Voilà, donc on continue ces actions d'une manière très intense, hein, j'avoue. Alors demain, le 22 avril à 20h30 à l'église d'Espalion, donc il y aura un récital de piano de Fabrice Soleri, précédé d'une projection de quelques projets qui ont été réalisés avec l'Orchestre Philharmonique de Kharkiv. Donc c'est vraiment les témoignages vivants de cette histoire commune qui a été matérialisée par Fabrice et cet orchestre. Mais à travers ça, je précise aussi que la France et l'Ukraine ont une histoire commune depuis très très longtemps, parce que un de Kiev, c'est la princesse ukrainienne, la fille de Yaroslav, elle a épousé Henri II. Et donc, nous, on est à peu près en 11e siècle.
Ouais.
Et donc, c'est cette princesse, cette reine de France, parce qu'un de Kiev est devenu reine de France, a donné naissance à toutes les dynasties de rois de France. Et c'est elle qui a amené le prénom Philippe dans la culture des prénoms royaux.
Merci. Oui, des Philippe, il y en a eu quelques-uns des rois de France. Voilà. Le dernier, c'est Philippe IV. Le dernier donc qui me revient.
Voilà, Philippe Lebel. Et donc, c'était la mère de Philippe. Je ne sais plus le numéro, mais voilà.
Milana, ce premier rendez-vous, c'est donc demain soir à l'église d'Espalion, concert 20h30, vous l'avez dit, participation libre.
Participation, pour le coup, est libre. Et donc, le but de cette action, c'est récolter des fonds qui iront pour combler ces fameux besoins. Avant l'arrivée des aides d'État définitives.
Autre rendez-vous musical la semaine prochaine ?
Exactement, donc il y en a deux. Il y a même Sébastien et Véronique Bras se sont mobilisés pour organiser
grand cuisinier aveyronnais, pour ceux qui nous écoutent de là.
Exactement, donc ouais. Une action assez exceptionnelle qui aura lieu le 26 avril. Et puis le 29 avril, pareil, un très beau concert intitulé « Le temps du muguet » qui aura lieu à la salle La Source, pareil, à 20h30. Et pour le coup, il y aura Fabrice Soleri avec son récital habituel, mais adapté au contexte, en deuxième partie. Et en première partie, c'est Ruten accordéon qui va embellir les voûtes de cette magnifique église de la salle La Source qui s'appelle Saint-Loup. En tout cas, Saint-Loup et Saint-Pierre. C'est quand même aussi une ville qui a, je crois qu'ils ont 8 églises, c'est très beau.
Ouais. Le vendredi 29 avril pour ce dernier rendez-vous avec le collectif Solidarité Ukraine Aveyron. Et vous, Milana, merci beaucoup d'être venue dans nos studios.
Très honorée, c'est toujours un plaisir immense. Et puis voilà, je vous remercie aussi d'avoir pensé à moi et de me faire participer à cette émission. Donc voilà, je suis très honorée. Merci David.
C'est nous, merci beaucoup Milana.